Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir de voir autant de personnes le dimanche après-midi. C'est impressionnant aussi en même temps. Et bienvenue dans cette table ronde qui s'intitule « Troubles dans le genre », hein, donc basée bien sûr sur le livre de Judith Butler, mais aussi peut-être « Troubles dans le genre » science-fiction, évidemment. Alors je vais brièvement présenter nos panélistes. Moi, je suis tout simplement prof de langue et littérature française aux États-Unis et j'enseigne un petit peu la science-fiction. Et je suis ravie d'être ici dans mes premières utopiales. Alors, nous avons sur le panel Sabrina Calvo, qui est, on ne présente plus, mais on va présenter un petit peu quand même, parce que sinon après on oublie. Écrivaine, game designer, dessinatrice et scénariste autodidacte. Et je note simplement son dernier livre, Toxoplasma, c'est ça ?
Ouais.
Que j'ai lu juste avant de venir et qui est vraiment super génial. Un grand travail sur la langue. Donc je vous le conseille. Nous avons également Baptiste Beaulieu qui est écrivain et médecin généraliste, qui a publié aussi plusieurs romans à succès, dont Alors vous ne serez plus jamais triste, qui est sorti en livre de poche en 2016. Et son blog s'appelle Alors voilà, et je vous le conseille vivement également. C'est un blog qui essaie de réconcilier soignants et soignés, que j'ai découvert récemment et aussi que j'arrête pas de lire. Et puis, bien sûr, Jeanne Debats, qui est écrivaine également, déléguée artistique des Utopiales, romancière et nouvelliste, hein, qui a gagné plusieurs prix majeurs en SF. Et je mentionne simplement, moi, mon préféré, c'est La vieille anglaise et le continent, que je vais en mentionner peut-être dans quelques minutes, qui est une de mes nouvelles préférées. Et avant que j'oublie, ils seront tous les trois en dédicace à la librairie, juste après cette table ronde. Alors, je vous rappelle le sujet, le titre « Troubles dans le genre » et le sujet, c'est soit par la représentation directe, soit par l'évocation de coutumes extraterrestres fictionnelles. Alors, j'ai pas noté beaucoup d'extraterrestres dans vos textes pour l'instant, mais on verra. La science-fiction s'est souvent interrogée sur la fluidité des genres de l'humanité. La trop simple division sociétale, grammaticale et philosophique mâle-femelle ne rendant pas compte des identités humaines, comment les mettre en évidence ? Alors, avant de commencer, moi, j'ai essayé de trouver des points communs entre vous. Et c'est Sabrina qui m'a donné la porte d'entrée un petit peu dans une table ronde jeudi sur l'altérité, où tu disais que la manière dont tu essayais de comprendre l'autre, hein, c'était de comprendre sa douleur. Hein. Et donc, cette idée d'empathie pour essayer de comprendre l'autre, je pense, est connectée un peu à la question du genre. Hein. Et Baptiste, bien sûr, en tant que médecin, la douleur, comprendre l'autre, comprendre sa douleur pour la traiter, c'est très important. Et je reviens à La vieille dame et le continent, qui est une histoire géniale d'une femme qui est transférée dans un cachalot. Et cette idée aussi, mal, effectivement. Et donc cette idée d'empathie, de comprendre notamment la douleur de ce cachalot qui perd un ami, etc., dans l'histoire, me semblait connectée. Et alors, pour en arriver sur la question du genre, je voulais vous demander d'abord, avant de savoir comment le valoriser, etc., comment est-ce que vous le comprenez déjà ? Quelle est votre porte d'entrée sur le concept du genre ? Parce que c'est un concept énorme dont on peut avoir plusieurs définitions. Jeanne, tu veux ?
Alors, je suis capable de me définir moi-même, de définir mon genre. Je suis fondamentalement cisgenre et pansexuelle. Cela étant, à partir de là, je ne m'autorise pas, à aucun moment, à donner la définition du genre de quiconque autre que moi. En revanche, j'attends éventuellement qu'on me donne les pistes pour être bienveillante et respectueuse envers mes voisins. Et c'est pas ce que je ne comprends jamais en tant qu'être humain et pas plus en tant qu'autrice, c'est l'interventionnisme inquisiteur. Les questions à la con, et comment tu baises, et comment tu te sens, et est-ce que t'as... Mais de quoi on se mêle, bordel ? Le sexe d'un chat ne regarde que ce chat-là. Et c'est comme ça que je vois les choses. À la base, j'ai deux livres fondateurs là-dessus. C'est La main gauche de la nuit, de Ursula Le Guin. Et un livre de... Zut, ça y est, c'est parti dans la grande trouille intergalactique de la mémoire. Mon Dieu. Le canal Ophite. C'est un immense écrivain américain, enfin, aidez-moi, soupe mentale, où il y a des tas de personnages transidentitaires, transraciaux, puisqu'il s'agit de personnalités extraterrestres. Zut, hein ? Voilà, merci. Vous êtes merveilleux, je vous aime. Voilà. Alors, je comprends pas comment j'ai pu perdre Varley en route. Donc, à partir de là, à partir du moment où vous avez lu Varley et Le Guin, la question du genre, pour votre propre compte, peut se régler à votre niveau. Voilà comment je le vois.
Je sais pas si je sais. Je crois que j'essaie d'apprendre en ce moment et je parle beaucoup avec les gens autour de moi et je lis aussi parce que je me rends compte que j'ai une énorme déficience en termes de ce qui a été écrit, de ce qui a été pensé. Et j'attrape des choses, j'attrape des concepts. Alors moi, je suis pas une personne très intellectuelle. J'ai du mal à assembler des théories. J'ai du mal à comprendre ces choses-là. Et ça me fascine tout ce qui a été écrit sur le sujet. Et je vous invite vraiment à retourner au texte. Alors. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte de ce que vous êtes, moi je tiens compte de ce que je suis, mais j'ai du mal à croire que ce que je suis pourrait être vraiment partagé ou être donné à l'autre comme ça. On est dans la calia, encore une fois, on est dans l'expérience tellement subjective que je voudrais vraiment opérer un pas en arrière et essayer d'être un peu plus humble par rapport à ça, parce que je vis tellement de choses extrêmement violentes au quotidien, extrêmement violentes envers moi-même et les gens envers moi-même, que j'ai l'impression que la seule chose que je peux faire, c'est me tourner vers l'autre, en fait, et pas me tourner vers moi, pour une fois, ce que j'ai fait pendant 40 ans. Et d'ailleurs, du coup, du fait de m'être autant tourné vers moi pendant 40 ans, j'en suis arrivé à me réprimer moi-même, quoi, avec une violence, là pour le coup l'hyperviolence elle est là. Donc là je suis vraiment dans une démarche plutôt d'essayer de regarder, de rencontrer, et je voudrais juste raconter une anecdote qui est pour moi assez significative de ça. C'est que je n'ai pas compris mon genre et je n'ai pas pu comprendre mon genre avant d'avoir rencontré quelqu'un en qui je pouvais voir les possibilités, les possibles, quel que soit le degré de fluidité. Et j'ai fait cet effort-là à un moment donné où j'étais vraiment en péril dans ma vie et où je me suis rendu à un centre LGBT à Paris pour rencontrer quelqu'un, une femme trans, et je leur ai dit, j'ai envoyé un mail, j'ai dit j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, parce que ma tête est pétrie de d'images, ma tête est pétrie de théories, ma tête est pétrie de culpabilité, j'ai besoin de voir quelqu'un qui s'est libéré de ça, j'ai besoin de voir quelqu'un qui comprend, parce que moi je ne comprends pas, je sais pas. Et du coup j'ai rencontré cette personne et c'est devenu... un truc hallucinant dans ma vie, quoi. Je m'en souviens encore, je l'ai jamais revu, mais je m'en souviens encore. Et c'était juste simple, c'était juste posé là, quoi. Et on s'est quitté dans la rue à la fin. Et je l'ai regardé partir et je me suis dit, mon Dieu, mais je comprends rien, mais tout est là, en fait. Et du coup, voilà, c'est sensible, j'ai un ressenti sensible par rapport à ça. Donc j'aurais du mal à vous dire que je sais quoi que ce soit sur le sujet, mais en tout cas, j'essaie de comprendre et d'essayer de savoir les autres maintenant. Voilà.
Moi, j'aurais pas d'avis en tant que médecin sur ce que c'est le genre, plutôt, comme le dit Sabrina, en tant qu'être humain sensible. Pour moi, le genre, c'est ce qu'on essaye, dans nos sociétés, dans notre civilisation judéo-chrétienne, d'invisibiliser au maximum, ou alors de polariser au maximum, de binariser au maximum. Il y a un plus, un moins, il y a une échelle, en haut, il y a l'homme, en bas, il y a la femme, parce qu'on est en patriarchie, voilà, patriarcalande, et l'idée qu'on pourrait passer de... un état à un autre, qui est une fluidité comme ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument invisibiliser. Alors je parle pour notre pays, mais j'ai voyagé notamment à Jérusalem, où avec un ami juif, j'ai eu la chance d'aller dans un quartier, le quartier de Mea Shearim, qui est le quartier juif ultra-orthodoxe, où si on est goy, on peut pas rentrer. Et donc, je voyais ces gens là-bas, tous les hommes sont habillés de la même manière. Toutes les femmes sont habillées de la même manière. Les femmes se rasent les cheveux pour avoir des perruques à la place, parce que le cheveu, ça risque d'exciter un petit peu les mâles, et voilà. Donc, et donc elles portent toutes la même perruque, tous les mêmes vêtements. Les enfants sont tous habillés de la même manière. Tous les petits garçons sont habillés de la même manière, toutes les petites filles de la même manière. Et c'est là qu'on se rend compte que peut-être que la question du genre, c'est la question de la frayeur ou de la crainte. L'idée que d'un seul coup, quelqu'un débarquerait en disant « mais moi, je veux ni m'habiller comme les petits garçons, ni m'habiller comme les petites filles, je veux m'habiller tel que la liberté en moi fait jour et me dit je veux m'habiller comme ça. » Et ça, c'est hyper effrayant, parce que peut-être que la question du genre, c'est la question de l'individu et de la liberté individuelle. Et enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, quand j'ai voyagé dans ce pays-là. Je me suis dit, ils ont énormément peur de tout ce qui se trouve entre les deux polarités, de l'homme et de la femme. Et ça les effraie tellement que, dès l'enfance, voilà, il faut tout de suite mettre dans la tête de l'enfant, il y a deux possibilités, homme ou femme, c'est tout.
Et de toute façon, c'est logique que ça soit effrayant, parce que dès qu'on sort de cette division en caste, on fout en l'air le contrat social, en fait. Enfin, c'est la perception qu'ils en ont. Hein, dès qu'une femme, un homme, une personne transgenre sort, montre qu'il est autre chose, qu'elle est autre chose, et qu'elle n'a absolument pas l'intention de se conformer à ce qu'on lui a imposé de l'extérieur, la sanction est immédiate. Alors, tu parlais de violence, elle peut être symbolique, mais elle peut être aussi terriblement physique. Dans l'arrondissement où j'habite à Paris, ça fait plusieurs fois, là, récemment, qu'il y a eu des agressions homophobes extrêmement violentes. Tout ça parce que deux hommes se tenaient par la main ou s'embrassaient dans la rue. Et ce sont des choses qui sont plus supportables, là, faut arrêter.
Est-ce que le problème, c'est pas la nuance? Enfin, c'est toujours pareil. Hein. Est-ce qu'on est dans une société? Quelle civilisation on veut, quoi? Et aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression qu'on revient à des espèces de fondamentaux pour pouvoir rétablir une structure de peur. Tu parlais de frayeur, mais moi je pense que c'est exactement ça. Et le genre et l'identité, c'est ce qui nous permet de tenir, en fait. Enfin, la notion de non-genre ou d'extrême genre permet de tenir comme ça par la peur le fascisme de l'identité qui est à la source de l'action individuelle, en fait. Ce moment où on se dit, mais il n'y a pas de raison d'être ce qu'on est plus que ce qu'on est, en fait, plus qu'on nous dise ce qu'on est. Enfin, l'identité vient pas d'une source comme ça, toute faite, tout en bloc, avec une armure magnifique sur son cheval, avec ses cheveux et tout, ça n'existe pas. On est un assemblage de choses. Alors, je suis un peu existentialiste, oui, mais en même temps, on nous force, en fait, à essayer de revenir à cet essentialisme, et là-dessus, on est sur des choses qui sont très folles, parce qu'on dit qu'effectivement, c'est la frayeur, c'est l'exploration de ce spectre magnifique entre l'homme et la femme, entre la binarité. Alors, on est comme ça, alors on voit tout comme ça dans le réel, mais en fait, entre comme ça, il y a la ligne, il y a le néant entre les deux, et on peut se balader, et on nous nie la possibilité de se balader sur ce néant-là, on nous dit, parce que justement, on n'a pas le droit de remettre en cause l'essentialisme de quelque part de l'âme, en fait. Et là, on arrive à quelque chose d'assez fort sur, mais de quoi on parle quand on parle de l'âme? Est-ce que l'âme a un genre? Est-ce que l'âme est sexuée? Mais de quoi on parle concrètement quand on parle de ça et quand on essaye de l'implémenter dans la civilisation? Et d'où nous parlent les gens qui ont des positions très très fermes sur la notion de genre, quoi. Et par là, je parle d'extrême genre. Et moi, je pense que c'est vraiment la question qu'il faut poser aujourd'hui, c'est cette question de nature, en fait. Et je mentionnais, et je vais laisser la parole très vite, il faut se poser la question du surnaturel de la nature, en fait, quoi, et dans le discours aujourd'hui de la civilisation.
Je pense que ce que tu dis, Sabrina, c'est aussi que d'un point de vue philosophique, vous faites peur parce que vous êtes des manifestes ambulants pour une dualité du corps et de l'esprit. Et ça, c'est assez effrayant dans notre société, qui est très matérialiste quand même. Et pour revenir sur cette idée de polarité, quand on parle avec des anthropologues sur les mutilations génitales religieuses, telles que l'excision ou la circoncision, c'est très intéressant de voir les anthropologues qui vous expliquent que quand on coupe un clitoris, on coupe la partie féminine qui évoque le plus ce qui pourrait être un pénis chez la femme, entre guillemets. Et quand on coupe un prépuce chez le petit garçon, on coupe la partie la plus flasque du pénis, ce bout de peau qui dépasse et qui, quand on le prend et qu'on le pince un petit peu, rappelle étrangement des grandes lèvres. Tout ça pour polariser encore plus, c'est-à-dire qu'on rend la femme entre guillemets plus féminine en retranchant cette partie qui serait supposément masculine, et chez l'homme on le rend encore plus masculin en coupant cette partie qui serait supposément féminine.
Ça fait une intuition biologique assez intéressante, puisque au fond, quand on est né au niveau embryogenèse, c'est les mêmes cellules qui se transforment soit dans l'un soit dans l'autre. Mais tu parlais de nuances et tu parlais de philosophie, et du coup cette polarité, blanc-noir, c'est quand même celle de la vision judéo-chrétienne du monde. On y revient toujours. Hein, c'est le mal ou le bien, le mal ou le bien. Pardon, c'était facile, excusez-moi. Et du coup, dès qu'on rentre dans la nuance, on met en cause cette philosophie, on la met dramatiquement en cause. Je ne sais pas, et alors là je me pose la question, parce que je ne me suis jamais, en fait, là je viens d'y penser, je me demande si dans les religions moins monothéistes, on va dire, ou qui n'ont pas ce manichéisme fondamental, est-ce que la question du genre est aussi dramatiquement posée? Je sais que dans certaines religions amérindiennes, il y avait un nombre fabuleux de genres potentiels qui arrivaient à l'être humain à sa naissance. Je ne sais pas pour d'autres. Je sais que ça existe au moins une fois. Ça, c'est parce que j'avais lu un article d'anthropologie là-dessus. Et je me demande si c'est pas lié, en fait, aussi. Est-ce que, quelque part, notre existence ne remet pas en cause celle de Dieu? Bam! Ta-da-da!
Yes! Enfin, de quel Dieu on parle? Enfin, c'est toujours pareil. Voilà. Tu crois en Dieu? Oui, mais enfin, comment on peut encore poser aujourd'hui cette question à quelqu'un décemment? Non, mais ok.
Et ils se sont mis à brailler au nom de lui plein de fois, quand même, là, il n'y a pas longtemps. Ils existent.
Hein. Oui, mais bon, j'ai pas envie de. Je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec la spiritualité, donc j'ai un problème avec les cons, donc je peux pas. J'ai pas de. Mais. Alors, moi, je lisais récemment, une amie m'a fait parvenir un truc très très beau sur, parce que vous savez, quand on est, alors ça c'est très intéressant. On va parler de spiritualité un petit peu, c'est un peu mon dada, c'est un peu mon truc. Moi, c'est mon angle d'attaque. J'aimerais bien pouvoir poser des choses biologiques, j'aimerais bien poser des trucs. J'y arrive pas, je sais rien. Par contre, je sais que je sens des choses et que je vois des choses. On m'a fait parvenir il y a pas longtemps un document sur les prêtresses cananéennes de la déesse. Parce que vous savez que la déesse, c'est quelque chose qui est très féminin aujourd'hui, avec tout le courant des witch et des wicca, et de la manière aussi des women, exclusifs, où on exclut les trans des manifestations extrêmement féminines, donc des choses comme ça. On se pose la question sur la triple déesse. La triple déesse, cette figure de la religion pré-judéo-chrétienne, qui a été dévoyée d'ailleurs complètement par toutes ces religions par la suite, hein, comme tout le reste, qui existe encore sous la forme de la lune, qui se manifeste, qui ne comprend que finalement, et qui n'est mappée que sur ces trois moments de fertilité. Alors effectivement, quand on est une femme trans, on a des problèmes, on a des problèmes à arriver à ça, parce qu'on se dit, mais moi, je suis pas fertile. Enfin, je suis comme ça, voilà. Je suis ce type de femme là, quoi. Et du coup, il y a aujourd'hui, heureusement, Dieu merci, de la part de certaines femmes trans cis, une déconstruction aussi du mythe de la déesse pour dire, mais attends, on peut arriver à quelque chose de plus nuancé. On peut arriver à plutôt que d'avoir trois images comme ça de la petite fille, de la vierge, de la mère et de crone dont on parlait ce matin, l'ancienne, comme disait Elisabeth Warnerburg, on peut arriver à cinq figures. Plutôt cinq incarnations, cinq avatars et cinq aspects de la féminité qui pourraient être représentés et qui pourraient être composés de manière nuancée dans tous les êtres et qui pourraient permettre une inclusion totale de toute forme de féminité, en fait, quelle que soit cette notion de féminité. Moi, je trouve ça très beau et je pense pas que la spiritualité soit aujourd'hui un problème à la notion de genre. Je pense que c'est le fondamentalisme écrit du livre, de la parole révélée d'une entité supracosmique, supradimensionnelle, whatever, pose un problème, effectivement, puisque l'homme ne peut pas se régir lui-même, donc il s'invente des figures comme ça pour pouvoir se régir. Je lisais récemment quelqu'un qui écrivait que l'homme ne peut pas se soulever de terre en se tirant par les cheveux, et c'est exactement ça pourquoi on a créé Dieu, quoi, ou en tout cas pourquoi on a manifesté la présence de Dieu sur la terre. Et je crois que, pour finir, aujourd'hui, il m'est difficile de ne pas poser la question de genre de manière spirituelle. Et je me refuse à le faire. Alors je suis plutôt Starhawk sur ces questions-là. Si vous n'avez pas lu Starhawk, je vous encourage à lire Starhawk. Il y a des choses, alors bon, je veux pas que ce soit trop New Age non plus et tout, parce que c'est quand même assez.
Tu peux nous dire de quoi tu parles, parce que Starhawk, ça me dirait.
C'est une écrivaine américaine qui se spécialise dans la question justement spirituelle, okay, autour du genre et autour de la féminité. Mm-hmm. Et qui écrit des choses assez belles aussi, et qui a pris pas mal de flak aussi. Et on parlait de Judith Butler, on parlait de ces gens-là, quoi, qui ont très bien compris le problème. Et donc, du coup, je me refuse à dire que, oui, même s'il y a un rapport à la nature, à la sacralisation de la nature à travers une certaine philosophie religieuse, appliquée à la lettre par la lettre, je me refuse à dire que la spiritualité est une entrave à l'expression multiple et diverse du genre. Voilà.
Pour, ah non, 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 mais moi je me sens pas, comme tu ne définis pas du tout la spiritualité comme je l'ai définie précédemment.
Bien sûr. Ouais. Par spiritualité,
ça me va bien.
Par spiritualité, je veux simplement dire le contact avec l'invisible de nous, quoi, et de l'invisible du peuple, de ce qui nous fait, de ce qui nous relie, là, ici, présent.
Et d'autre présent, part, quoi. Je me sens pas du tout concernée parce que je suis à peu près aussi. Enfin, j'ai connu des bols tupperwares spéciales mayonnaise et chantilly plus spirituels que moi.
Je ne sais pas si vous avez lu l'anthropologue Françoise Héritier, mais je vous le conseille vraiment parce qu'elle a écrit de très jolies choses et des choses très fortes, notamment sur la question du genre, où elle s'est interrogée sur pourquoi les hommes dominent les femmes, sociologiquement parlant. Elle a essayé d'aller à l'origine de cette question et de comprendre pourquoi. Et elle expliquait ce que tu disais tout à l'heure, Jeanne, que toute société se construit à la base sous forme de polarité. C'est-à-dire il y a le bien, le mal, le jour, la nuit, le liquide, le solide, la lumière, le noir. Et que très tôt, évidemment, il y a eu le pôle féminin et le pôle masculin. Et qu'il a fallu attribuer au pôle masculin et au pôle féminin des attributs, des qualités. Donc évidemment, la femme a eu le mâle, elle a eu, avec le personnage de Lilith par exemple, elle a eu le froid, le liquide, la lune plutôt que le soleil, hein, tandis que l'homme, évidemment, personnage solaire, a eu le soleil, le chaud, la vigueur. Et elle explique très bien que, partant de là, dans des sociétés où tout était violence entre les clans, etc., où le sang était très important, parce que le sang versé, c'était la mort à l'époque, elle construit sa thèse selon laquelle une des raisons pour laquelle les hommes ont pris le pas sur les femmes, c'est que les règles, tout simplement. C'est que dans la pensée primitive archaïque, parce que les femmes ont leurs règles, et elles ne peuvent pas retenir leur sang. Et du coup, contrairement aux hommes qui eux n'ont pas de règles, elles ont été tout de suite mises de côté comme incapables de retenir leur sang, ce qui était très symbolique à l'époque, le sang. Et elle explique d'ailleurs très bien la raison pour laquelle, d'une manière générale, l'homosexualité masculine a été plus ostracisée dans les différentes civilisations que l'homosexualité féminine, que le lesbianisme. Elle explique tout simplement que lorsque deux hommes ont des relations sexuelles, il y a une déperdition de semences qui ne sert pas. Et que du coup, c'est condamnable. Alors que deux femmes qui font l'amour, il n'y a pas de perdition de semences. Donc globalement, on s'en fiche. Et surtout, elles ne se gâchent pas comme peuvent se gâcher deux hommes qui font l'amour. Ce qui est une vision déjà sexiste, en fait. La raison pour laquelle les civilisations acceptent mieux, entre guillemets, ou ostracisent moins le lesbianisme, est tout simplement une question de sexisme.
Et de pragmatisme aussi. Parce que quelque part, si Bibiche, elle ne veut pas être inséminée, on s'en fout. Voilà. C'est donc, effectivement, c'était ostraciser les hommes homosexuel était nécessaire d'un point de c'est pas ce que je pense, hein, attention, je préfère être bien clair. Au cas où, là, hein, on prend pas ma phrase en dehors du contexte. Hein, était nécessaire parce que, justement, effectivement, ils se mettaient en dehors et ils n'allaient pas retransmettre leurs précieux gènes. Tandis que les filles, après tout, même ça n'existe pas. Et ça continue à ne pas exister, hein, je suis désolée. Être lesbienne de nos jours, c'est être largement moins vu qu'un homosexuel.
Alors regardez les débats sur la PMA. Hein.
Voilà.
Alors, je vais vous parler d'un témoignage personnel. Enfin, je veux dire, j'ai envie, moi, encore une fois, je vous ai dit, j'essaie de pas trop théoriser ces choses-là. J'essaie de partir de ce que je vis au quotidien et de ce que je découvre au quotidien sur le réel qui nous entoure et que tout est bullshit globalement et que ça tient à tellement peu de choses, les choses qui nous séparent et ça tient à rien. Et tout à l'heure, je te racontais une anecdote comme quoi si jamais j'étais une espèce de grande blonde super maquillée avec des fake boobs et des talons hauts et que j'arrivais, alors la personne a de problème à me genrer correctement. Par contre, moi, j'arrive avec mes petits seins et normal, moi, avec ma voix cassée et mes cheveux à moitié là et puis avec encore des trucs comme ça. Par contre, moi, je suis mégenré, c'est systématique, quoi. Et alors que j'ai plus d'hormones, j'ai un vrai taux d'hormones féminin dans mon corps et tout. Et donc, et là, je me dis, ok, alors, quand j'ai compris ça, je me suis dit, comment ça marche? comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est concrètement qui se passe dans le monde au niveau du genre ? Et je me suis rendu compte à quel point donc ces marqueurs dont vous avez parlé, c'est-à-dire ces marques au niveau du corps dans la société, de la manière dont on se reproche d'être plus ou moins d'un bord ou d'un autre, sont essentiels à effacer ou à amplifier, quitte à être accusé de renforcer une certaine vision du genre. C'est pour ça qu'on a parfois des personnes trans, que ce soit des hommes trans ou des femmes trans, qui ont tendance à surjouer l'expression du genre, justement, la performativité, comme le disait Butler, pour revenir au sujet, parce que justement, il y a un moment donné où on est obligé d'afficher ces marqueurs pour exister. Alors, dans le cas merveilleux où on peut se subsister à soi-même et exister dans ce monde imaginaire sublime et dans ce corps imaginaire et qui est le nôtre réel, parce que l'imaginaire, le réel, il n'y a pas vraiment tant de différence quand c'est appliqué à l'individu, quoi, quand on est dans notre ressenti de l'expérience subjective. Il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, on a besoin d'exister aux yeux des autres, on a besoin des autres, c'est ce que je disais, on a besoin de ce lien avec les gens, quels qu'ils soient durs et de souffrance. Et des fois, on a tendance à essayer de croire que en s'affirmant en non-marqueur, on va s'affirmer mieux, mais en fait, pas du tout. Et je me rends compte à quel point c'est dur, très très dur aujourd'hui, de revendiquer des marqueurs de genre sans avoir derrière toute la démarche philosophique, existentialiste, métaphysique qui va avec, et qu'en face, il n'y a que du cognitif, quoi. Il n'y a que du. Voilà. L'année dernière, j'ai fait une expérience assez utopiale pour ceux qui et celles qui étaient là, c'est que j'avais refusé d'apparaître sur des photos et des vidéos parce que je n'arrivais pas à supporter mon visage encore. Et c'était très dur pour moi de me voir. Et quand on est dans un mode de représentation comme ça, c'est-à-dire en position de pouvoir vis-à-vis de vous sur une estrade, à vous regarder, y a ce regard qui est en permanence sur moi et je ne pouvais pas moi-même avoir ce regard sur moi avec le regard de vous. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il est possible d'exister sans être vu ? Et alors, les gens du Tout ont été extraordinaires là-dessus. Ça a été toutes les conférences étaient décadrées, étaient filmées. Alors on me mettait là pour pouvoir filmer là. Les gens de la Volte m'ont défragmenté sur les photos. Et tout le monde est venu me voir, me concerner pour savoir comment on pouvait faire. C'était un travail à plusieurs d'exercice de contrôle cognitif de la réalité pour pouvoir m'effacer. Et pourtant, ma même voix caverneuse était toujours là, et comme une espèce de fantôme, quoi, et tout, quoi. Et là, j'ai compris. Et là, je me suis dit, ok, là, il y a un truc qu'il faut que je comprenne. Et j'ai encore mieux compris cette année. Et là, je vais vous laisser la parole. C'est que bien sûr qu'on comprend quand on commence à avoir des marqueurs de féminin sur soi et qu'on commence à marcher dans la rue comme ça, on comprend qu'à un moment donné, on est regardé et on est vu, et que ne pas voir, c'est ne pas faire exister le regard de l'autre, quoi. Et donc j'ai compris pourquoi on a ça à la main maintenant quand on marche. Au début, je me posais la question, mais enfin, c'est con. Ces gens complètement accro à leur portable, à la con. Là. Ouais, non, mais attends, mais merci le portable, quoi. Sérieux, quoi. Et toutes les meufs, là, elles savent de quoi je parle, quoi. Tu vois. Et pareil, ne pas regarder les gens, quoi. Si à un moment donné, je me suis vu avec des œillères, me dire, mais si je pouvais inventer des lunettes qui me permettent de voir sans voir et de pouvoir ne pas être vu en t'en voyant, c'est n'importe quoi. Et tout est là, en fait. Et beaucoup de choses sont là. Et ça tient à tellement peu de choses. Et maintenant, je commence à voir chez les gens aussi cette finesse de traits, cette finesse, cette ambiguïté qui apparaît partout et qui ne sont que finalement des marqueurs apparents, quoi. Et une fois qu'on enlève ces marqueurs, il n'y a plus rien, en fait, et on se rend compte à quel point que tout est fluide et tout est liquide, quoi. Et là, la déesse apparaît, et pas la déesse spirituelle, la fluidité, l'eau.
Alors justement, tu parlais de marqueurs. Et je voudrais revenir un petit peu vers l'écriture en général, la science-fiction, mais l'écriture en général. Baptiste, tu parlais de cette expérience un peu de voir d'où la différence homme-femme et la domination homme vient. La littérature souvent va s'emparer de ces choses-là. Et au travers de l'écriture, justement, essayer soit de comprendre les choses mieux ou d'explorer des nouvelles manières d'être. Alors je voulais vous demander aussi au niveau de l'écriture. L'écriture, c'est des marqueurs. Et je ne sais pas si vous êtes allé, mais il y a eu beaucoup de tables rondes qui parlent quand même de comment est-ce qu'on peut refaire le monde par la langue. Il y avait une table ronde juste avant celle-ci sur la novlangue, par exemple. Et puis, il y avait aussi le documentaire de Ursula Le Guin, où elle dit notamment dans le documentaire pourquoi est-ce que les gens nomment les choses ? Son père était anthropologue. Et elle disait, on nomme les choses parce que ça nous permet de connecter avec. Et ça nous permet aussi d'inventer des choses nouvelles, d'inventer des nouveaux mots, d'inventer des choses nouvelles. Alors, je voulais vous demander, est-ce que quand vous écrivez, par exemple, et que vous essayez de voir comment, justement, valoriser des nouvelles identités, comme le dit le sujet. Est-ce que ça vous interpelle? Comment est-ce que vous faites?
Alors là, ça rentre directement dans ce que moi j'ai écrit, à savoir la trilogie de Navarre, Testament, qui, dont le dernier tome, c'est Humaine, trop humaine, en écriture inclusive. Quelque part, le personnage central, Navarre, immortel, né, en tout cas mâle, cisgenre, pansexuel, c'est moi. Surprise. Voilà. Et je me suis projetée là, dans cette identité-là, qui me permet d'oublier la douleur, parce que de la douleur dans mon corps, j'en ai, je suis aussi également fibromyalgique. J'ai de la chance, c'est entre guillemets, c'est pas une forme ultime de la fibromyalgie, mais c'est une forme qui me fait avoir un contact avec l'univers qui ne peut être que douleur, on va dire. Voilà. Et c'est mon esprit qui transforme ce contact, et c'est uniquement par mon esprit que je transforme ce contact en quelque chose qui est l'empathie. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, quelque part. Alors ça, c'est la maladie, donc. Dans Humaine, trop humaine, j'ai essayé d'aborder toutes les questions de genre telles que je les comprenais, ce qui ne veut pas dire telles que je les concevais. C'est pas la même chose, d'accord ? Par exemple, j'ai commis une erreur qui m'a été signalée. C'est qu'à un moment, dans une discussion, il y a une personne transgenre dans mon roman qui parle d'elle-même au masculin parce qu'elle parle d'elle-même avant sa transition. Et je me suis fait dire, à juste titre, par une autre personne transgenre, que normalement, elle n'aurait pas fait ça. Dans ma tête crétine, ça me paraissait logique à titre historique. Voilà. J'apprends par la littérature à me mettre dans la peau, dans l'empathie, et à cesser de souffrir aussi un peu.
Un jour, j'ai une lectrice qui vient à une rencontre et qui me dit « Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites. » Je dis « Merci, c'est toujours bien. » Vous savez, on est assis, les gens font la queue pour vous dire « On vous aime, donc c'est bien. » Il y a pire dans la vie. Et elle dit, mais je comprends pas comment ça se fait quand même que dans tous vos livres, il y a au moins un personnage lesbien ou gay ou trans. Je dis, mais parce qu'ils existent.
Tu sais que dans un de mes romans jeunesse, il y a le personnage de Samuel qui est effectivement homosexuel et qui est là parce qu'il existe. Et je me suis pris mais une dégelée de la part par des blogonautes jeunesse en disant, mais qu'est-ce que c'est que cet homo qui fait pas des trucs d'homo? Alors, dans un livre jeunesse, j'imagine mal déjà ce qu'il aurait pu faire d'homo, particulièrement homo, qui aurait
manger une choucroute, je ne sais pas. Truc,
voilà.
Les homos le font, hein. Pas oui, les hétéros aussi. Mais...
Alors, ouais, il a un copain qu'il aime vraiment bien là, et puis une copine qu'il aime vraiment bien. Alors ça aussi, c'est des trucs d'homo. Hein. Et j'ai fini par dire. En fait, ce que vous me reprochez, c'est que j'ai écrit un livre où le personnage homosexuel ne met pas nécessairement la main au panier au personnage straight. Tout ça parce qu'il n'est pas con, qu'il a bien remarqué que le personnage était straight. Donc c'est pas un agresseur sexuel. C'est cool. Dans un roman jeunesse, ça me paraît pas mal quand même, comme position, si j'ose dire. Voilà.
Mais là, ce que tu décris, c'est typiquement ce qu'on appelle l'hypersexualisation de l'homosexualité. C'est-à-dire, quand on voit parfois des faits divers comme un gamin de 8 ans qui est poussé au suicide par ses camarades de classe parce qu'il a fait son coming out, on voit toujours dans les gens, dans les commentaires, qui disent qu'est-ce qu'il a besoin de faire son coming out à 8 ans? Comment est-ce qu'on peut savoir à 8 ans qu'il l'a fait? Parce que les gens s'imaginent toujours qu'à 8 ans, il est allé voir son père en disant « Papa, je crois que j'aime sucer des bites ». Alors qu'en fait, à 8 ans, il va juste voir son père ou sa mère et il dit bah, « En fait, j'aime bien envoyer des petits messages sous la table à des garçons plutôt qu'à des filles. » Ou « Je préférerais faire des bisous sur la joue. » Mais hypersexualiser l'homosexuel ou le trans, souvent, ou la trans, c'est déjà une forme d'homophobie. Moi, quand j'écris dans mes romans, donc moi j'aime bien faire du militantisme soft dans mes romans, et puis dans les articles que j'écris pour l'Obs, je suis un peu plus méchant, véhément. Mais par exemple, dans mon premier roman, et j'étais très fier de ça, c'est-à-dire le héros est hyper attachant, je voulais qu'il soit vraiment très très attachant, et on parle absolument pas de son orientation sexuelle ou son identité de genre, et à un moment, comme un épiphénomène, bon ben il y a un garçon qui sort de sa chambre un matin, et on apprend que les jours pairs il sort avec des filles, et les jours impairs il sort avec des garçons. Ça m'est arrivé à une période de ma vie. Bon, maintenant que je suis tombé amoureux, c'est fini, donc voilà. Mais et j'étais super content, c'était un piège, parce que les gens s'attachent à ce personnage, y compris les homophobes, et puis d'un seul coup ils apprennent, ah merde, voilà, hein, je l'aimais bien et il faut que je continue à l'aimer maintenant parce que c'est trop tard. Et je suis super content parce que ce livre, il a été traduit dans plein de pays arabes, il a été traduit en Russie, et je me dis, j'aime bien la gueule du russe homophobe j'aimerais bien voir sa tronche, quoi, voilà. Et rien que pour ça, je suis content.
Alors, deux choses d'abord avant d'aborder les problèmes de l'écriture. Première chose, par rapport à ce que tu disais sur ton amie femme trans qui se référait, c'est correct qu'elle dise ça, c'est tout à fait logique, et c'est aussi correct de dire le contraire et de dire qu'on se genre aussi au masculin quand on était un homme. Il n'y a pas de problème, en fait, c'est que des histoires d'individus. La transition et la perception du genre, c'est ça. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de narration officielle. Les narrations officielles, ce sont des organismes comme les gens de la SOFECT ou des gens comme ça, des gens absolument détestables, qui essayent d'officialiser des espèces de cursus de genre pour pouvoir remettre des gens dans des cases correctement en disant « On veut bien que tu changes de sexe, mais il ne faudrait pas quand même que tu nous foutes en l'air notre image de la femme, quoi. » Wow. En Iran, ils font ça. Hein. En Iran, il n'y a pas de problème. On a le droit d'être trans à partir du moment où c'est direct, quoi. Donc, bon, c'est correct. Il y a bien sûr que c'est important. Moi, je pense que ton témoignage, il est très beau. Et la manière dont tu le fais, c'est très, très beau aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est correct aussi de penser qu'on peut se référer à soi-même en tant qu'homme. Moi, je n'ai pas honte de l'homme que j'ai été pendant un certain temps et qui reste, dont il reste quelques traces en moi encore. Et c'est très cool. Peut-être que je les nourrirai, peut-être pas. On va voir.
Alors, honnêtement, à la base, je me suis énervée. Parce que je me suis dit, putain, j'étais allée demander conseil.
Oui.
Voilà. Oui. Voilà. Donc, j'en suis arrivée à la conclusion que, effectivement, c'est une histoire personnelle et que le résultat, ce que j'en retirais, moi, c'est que ce qui était super important, à la base, c'était de ne blesser personne. Et donc, la solution qui m'était proposée était celle qui avait le moins de chances de blesser quelqu'un. Et donc, de ce point de vue-là, celle qui m'a parlé avait raison. Et si, croisant les doigts, humaine, trop humaine, est totalement épuisée, qu'on le réimprime, je changerai le pronom là. Voilà. Et je ne vais pas au-delà de ça, si tu veux. Parce que pour moi, au fond, tout ça, ça reste dans le respect de chaque individu par rapport à ce qu'il y est. J'arrive à le faire à l'écrit, à l'oral, il m'est moins facile. Il y a un truc auquel je pensais, c'était sur le mégenrage. C'est lorsque une amie ou un ami transvoyage, je ne sais pas comment quel verbe on peut employer pour décrire la transition, je ne sais pas. On a un cerveau qui a enregistré cet ami définitivement, cet ami-eux, définitivement sous une certaine identité. Et c'est terrifiant de voir en soi-même à quel point il est difficile de déconstruire le pronom masculin ou féminin selon ce qu'il était. On a beau avoir, et j'en ai un exemple tout à fait récent, on a beau avoir la volonté profonde, primale, d'être dans le respect, d'être dans l'accompagnement, votre putain de cerveau est là derrière, qui vous ressort la vieille étiquette. Et là, on se dit, déjà, si nous, ceux qui aimons, nous avons du mal à accompagner nos amis vers ce qu'ils sont, c'est pas étonnant que de l'autre côté, il y ait cette violence si abominable. Vraiment, on est des sales putains d'animaux.
En parlant d'animaux. Merci, Jeanne. Hier, je passe cette conférence sur la transhumanisme. Ok, tout le monde connaît mes positions sur le transhumanisme maintenant, j'espère. Bullshit. Je passe et je vois des gars bon, sur scène avec des barbes qui parlent de Sense8. Excuse-moi, c'est pas pour te manquer de respect.
quelqu'un qui n'a pas l'air spécialement... Bon, bref, qui parle de Sense8, et donc c'était une très belle série des sœurs Wachowski, machin, etc., et qui parle à un moment donné, il dit, ouais, c'est quand même magnifique, transhumanisme, un jour, ça pourra nous permettre d'être trans, et puis on pourra changer de corps comme on veut, et puis on pourra faire des orgies, parce que dans Sense8, ils font des orgies géniales et compagnie, quoi. Bon, moi, j'étais là dans le public, quoi. J'ai dit, mais où sont les orgies? Sérieux, quoi. Sont où les orgies? Moi, je les vois pas, les orgies, perso, quoi. Moi, je vois ma petite vie tranquille, normale, tu vois. Pas d'orgies, j'ai pas besoin d'envisager de... Enfin, c'est pas pour ça que j'ai fait ça, quoi. Enfin, c'est pas pour ça que je suis ça, j'ai pas d'orgies, quoi. C'est un peu hallucinant. Enfin, je veux dire, tu parles du pronom, etc., mais enfin, le nombre de fantasmes aussi qui se projettent, mais à la fois sur les personnes homosexuelles comme sur les personnes transgenres, hein, je dis pas, il y a pas de compétition.
C'est l'hypersexualisation.
C'est donc, ouais, c'est exactement ça. C'était pour rebondir sur ce que tu disais, quoi. C'est hallucinant. Enfin, je veux dire, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre de notre vie sexuelle, quoi? Je veux dire, faut vraiment que la vôtre soit vraiment merdique pour ça, quoi. Non, mais sérieux. Non, mais j'ai halluciné, quoi. Donc, il y a des orgies aux Utopiales avec des trans en folie, là. Je suis au courant. Vous m'invitez, on fait quelque chose, quoi.
Écoute, on m'a rien dit.
Ouais, mais je sais pas, moi non plus.
Dégueulasse, j'aurais été invité.
Putain, j'adorerais, quoi. Alors, je termine juste. Alors, bon, je sais, je parle beaucoup aussi. Par rapport à l'écriture, machin, on a la chance d'écrire en français. Le français nous donne une gamme d'outils incroyables, malheureusement très genrés aussi. On sait très bien que le français est une langue, malgré ce que les réactionnaires aujourd'hui veulent nous faire croire sur cette langue, mais non, qu'en fait, le neutre est masculin, la couleur neutre est blanche, bref, on le sait, tout ça, maintenant. Et le français a du mal à s'accommoder de ces choses-là. Alors, on a des gens qui travaillent avec, dont toi, donc plein de gens, plein d'autres personnes qui travaillent avec les pronoms, qui travaillent à essayer de, moi, modestement, j'essaie de, ne serait-ce que mon éditeur qui est là et qui se tirait les cheveux au bon moment donné parce que je faisais
d'ailleurs, il en a plus beaucoup,
ouais. La règle de proximité. J'essaye d'appliquer la règle de proximité dans mes bouquins, quoi. C'est-à-dire de dire, bah, à partir du moment où on a un adjectif féminin et une femme qui parle à un moment donné, bah, l'adjectif sera féminin, qu'importe le groupe, qu'importe. Pareil au niveau du groupe, je suis pas dans le on masculin. S'il y a plus de meufs, et ben, c'est féminin. Et puis le mec, il se tait, quoi. Voilà. Comme les meufs, c'est vrai. Mais c'était dur et je sais que tu m'as dit à un moment donné, mais il faut mettre un disclaimer au début pour dire, attention, nous allons pratiquer dans ce livre, machin.
Mais enfin, merde, non?
Non, non, mais bon, je lui dis merde. Il le sait. Si la SF est pas capable de faire ça sans disclaimer, pourquoi on écrit de la SF, quoi? D'accord? Voilà, c'est à un moment donné, il faut se dire que la science-fiction est. En tant que genre, on va peut-être parler, je ne sais pas si on a du temps encore.
Quelle heure c'est là, il nous reste
50.
11 minutes.
Je ne sais pas si on se rend compte à quel point les genres et les sous-genres dans la SF, moi c'est marrant quand on écrit dans mes bios maintenant, écrivaine transgenre. Bon alors, putain, transgenre c'est génial, bon, moi j'assume, c'est cool. Mais en même temps, transgenre au niveau, depuis le début de ma carrière, de mon modeste carrière dans ce milieu, on me dit, ouais, mais t'es entre les genres, c'est la science-fiction, la fantasy, machin, etc. Bon, moi je ne me pose pas les questions, j'intériorise. Mais par contre, je sais qu'il y a un truc qui est fort, c'est qu'on écrit en français, que le français nous donne la poésie, nous donne une gamme de couleurs, une gamme de choses extrêmement fortes pour pouvoir décrire ça, qu'on peut aller très loin et que la SF doit pouvoir dire fuck à la littérature blanche, doit pouvoir se permettre ses expérimentations, doit pouvoir se permettre tout ça, et on s'en... J'ai encore le droit de dire que je m'en bats les couilles, quoi. Voilà.
Et je les gonades,
ça te le dis, c'est la deuxième fois que je le dis, hein, ici. Hein, j'aime bien, moi, je suis comme ça. On m'a reproché mes histoires de requins aussi, que j'ai sorti plusieurs fois.
Battons-nous en les gonades en cadence.
Et donc je crois que nous, en tout cas, on a les outils aujourd'hui en tant qu'écrivain et écrivaine à notre disposition, et que être dans la SF, être marginalisé aussi dans la SF, ça nous donne ce pouvoir de contestation, ça nous donne ce pouvoir de subversion, et qu'il faut le saisir, et qu'il faut arrêter de croire qu'en épousant les bienfaits de la normalisation du langage français, on va pouvoir s'éclater et devenir et repousser les choses. On ne fera que jouer le jeu du pouvoir et on ne fera que répéter les mêmes erreurs. Voilà.
Amen.
Je voudrais juste revenir juste un instant, en profiter avant que ce soit fini, en revenir sur la colère militante, la colère des personnes concernées. Vous savez, l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie, c'est pas seulement des gens dans la rue qui crient à mort les PD, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. Et souvent, on me reproche, moi dans le milieu médical, j'ai pas beaucoup d'amis, on me reproche de peigner beaucoup de museau aux médecins, d'être toujours en colère, de voir que le mauvais côté des choses. Mais simplement, ce que j'ai et que eux n'ont pas, je suis concerné par la situation. Et deux, surtout, c'est que j'ai lu des trucs sur le sujet. Alors les médecins n'ont rien lu, mais comme ils sont médecins, ils savent. Évidemment, vous savez, ils savent. Et du coup, ils comprennent pas forcément la colère des personnes qu'ils ont en face de soi. Je voudrais juste que vous regardiez Sabrina, que vous me regardiez. On a 12 ans d'espérance de vie en moins que vous. parce qu'on vit dans une société hétéronormative. Mais ça, ça c'est des statistiques qui le montrent, vous comprenez. Je vous donne un autre petit exemple. Récemment, j'ai écrit un article pour Tétu, et un jour, j'ai une patiente de 17 ans, magnifique, qui arrive au cabinet, qui s'assoit en face de moi, il dit « Voilà, je suis lesbienne, je voudrais savoir si je dois me faire vacciner contre le HPV, vous savez, le Human Papillomavirus. » Et là, je me rends compte que pas un seul instant durant mes 10 années de médecine, on m'a expliqué si oui ou non il fallait vacciner les femmes lesbiennes jeunes contre le papillomavirus. Et vous savez qu'en tant que médecin, il y a un truc qu'on déteste, c'est dire « je sais pas ». Et donc, je suis... Mais oui. Et donc, j'ai passé 10 minutes à chercher, grand silence, je cherchais sur Internet, sur Google, et je suis sûr qu'il y a... Et je me dis, il y a plein de médecins qui doivent dire « non, c'est pas la peine, ça se transmet par les gars, donc c'est pas la peine. » Et... Vous savez ce que j'ai découvert ?
Il n'y a pas de femmes bisexuelles.
Hein ? Oui, mais c'est ça. C'est voilà. Que non seulement il faut vacciner. Heureusement qu'il y a la littérature américaine, hein, soit dit en passant. Bref, enfin la littérature scientifique américaine pour ça. Et non seulement il faut vacciner les femmes lesbiennes, mais le cancer du col de l'utérus, c'est 270 000 mortes chaque année dans le monde. Les femmes lesbiennes sont 4 à 5 fois moins vaccinées que les femmes hétéros, tout simplement parce que les médecins, quand ils ne savent pas, ils disent « oui, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de vous vacciner. » Donc, quand on dit « oh, mais ils sont en colère ou quoi ?» On est en colère parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a des femmes qui meurent, il y a des hommes qui meurent à cause de tout ça. Je veux dire, ce n'est pas le type dans la rue qui va te traiter de sale trans ou qui va te casser la gueule parce que tu tiens la main d'un autre garçon dans la rue. C'est des morts qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, et qui sont là quand même. Après, je vous laisse la parole, une dernière petite chose. On voit tous ces visages en ce moment défiler sur les personnes qui se font casser la gueule dans la rue. Et je l'ai pensé, et j'ai un peu honte, et d'autres personnes l'ont écrit sur Twitter, mais on attend quoi ? On attend qu'il y ait un mort ? Mais en fait, il y a déjà eu une morte. Il y avait Nessa Campos qui était trans et qui est morte. Évidemment, elle est morte dans l'indifférence collective, parce que vous êtes toujours l'angle mort de nos luttes, les personnes trans. Et ce serait bien qu'on change ça, je crois.
Il ne reste que 5 minutes, mais on va essayer de prendre des questions quand même.
Alors, j'aurais deux petites questions. Je voulais revenir là sur ce que vous venez de dire maintenant. Vous avez parlé de 12 ans d'espérance de vie en moins. Alors, quelles pourraient être les causes ? Parce que là, c'est vrai que ça paraît hyper surprenant comme chiffre. Et la deuxième question, c'est, moi, je suis professeur et j'ai entendu une remarque. Un jour, on était voilà dans le cadre de l'éducation civique. Il y avait un débat sur le mariage homosexuel. Donc, on avait d'un côté les mariages pour tous. Bon, voilà, la manif pour tous, vous imaginez bien les arguments des gamins. Et de l'autre côté, il y avait les plutôt pour, mais qui m'ont sorti un argument qui m'a un peu déboussolé. De toute façon, le mariage homosexuel, ça change rien, parce que toujours dans les couples d'homos, il y en a un qui fait la femme. Voilà. Qu'est-ce qu'on répond à ça et comment expliquer les 12 ans d'espérance de vie ?
Alors, la première chose, c'est que tous les mariages sont des mariages de même sexe. Tous les soirs, tu te couches avec la même personne et tous les soirs, c'est le même sexe. Déjà. Ensuite, pour les 12 ans d'espérance de vie en moins, c'est tout simple. Les études, elles le montrent, c'est que 45 à 50% des patients et des patientes LGBT ont déjà refusé d'aller chez le médecin par peur d'être jugé sur un problème intime. Première chose. Deuxième chose, c'est le stress. On vit dans une société où beaucoup de stress. Moi, j'ai commencé à fumer quand la manif pour tous a commencé à défiler dans la rue. Alors peut-être j'aurais fumé pour autre chose, j'en sais rien. Je ne veux pas dire que c'est leur faute ou quoi. Ce qui est certain, c'est que je clope maintenant. Quoi. Voilà. Avant, je ne clopais pas. Donc c'est le stress, des problèmes cardiovasculaires liés... À ce stress en permanence dans la société. Quoi. C'est essentiellement des problèmes cardiovasculaires.
Alors, de mon point de vue, voilà, j'ai 53 ans, je suis malade, comme je viens de te le dire, et là, je ne vais plus voir un seul médecin. Je ne peux plus supporter leur gueule. J'en ai marre de leur jugement. Pas toi, Baptiste, pas toi. J'ai une merveilleuse généraliste qui me sert pour tout, la malheureuse. y compris me faire le café et me tapoter la main de temps en temps. Le fait est que la prochaine fois que je vois un gynécologue, je lui casse la gueule. Là, c'est fait. Là, cela, je ne peux plus. Pendant toute ma vie de femme et plus tard de mère, je n'ai eu que des retours négatifs de ces mecs. parce que je parle de mecs, mais bon, il y a des nanas dedans, elles peuvent être pires. Notamment, quand mon fils cadet est né, j'ai voulu me faire stériliser, on m'a menti. On m'a dit, oh ben non, t'as pas 40 ans, c'est pas autorisé. Sauf que c'était faux. Et quand j'ai découvert que c'était faux, ah oui, mais on va te laisser 6 mois de réflexion. C'était tellement chiant, il fallait tellement se battre que j'ai renoncé à être stérilisée. Et je bouffe encore la pilule parce que je ne sais pas pourquoi, la biologie, je ne suis toujours pas ménopausée. J'ai 53 ans et je fume comme un pompier. Merde. Je ne devrais pas prendre la pilule. Et je suis désolée, je n'ai pas envie de prendre un préservatif avec mon fiancé actuel. Ça me fait chier. Voilà. J'ai sûrement 12 ans de vie en moins, là. C'est sûr.
Voilà. Et donc, c'est pas que... Voilà. Merci. OK. Moi, je vais vite faire vite parce que c'est hyper important que je parle de ça aussi, parce que les populations transgenres sont des populations très, très, très... Tout, que de la nuance. C'est très délicat. Les balances hormonales, c'est un truc de malade. Les endocrinos, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai la chance de vivre à Paris. J'ai déjà été bouté en dehors d'un cabinet d'endocrino avec une nana qui me regardait comme ça en disant « Je suis désolé, mais je prends plus les trans. » Et elle m'a accompagné jusqu'à la porte, gentiment. Et moi, je devais faire la gueule comme ça. Et elle a rien dit. Elle m'a juste regardé comme si...
Je sais pas pourquoi.
Non, mais jamais rien dit. Bon, whatever. Qu'importe. En plus, elle bossait avec vous trans. Enfin, c'était un truc un peu bizarre. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais vous donner un exemple tout con. À partir du moment où moi, mon passeport, il est toujours mal, à partir de si j'ai le dépistage du cancer du sein, c'est une vraie réalité pour moi. J'en ai vraiment besoin, quoi, parce que maintenant, j'ai des boobs. Quoi. Voilà. Je fais comment? Et du moment où je passe féminin, comment ça va se passer pour ma prostate? Si jamais j'ai un problème de prostate. Mais c'était con. Je prends juste des exemples un peu caricaturaux. Voilà. Sans compter les dépressions, sans compter le phénomène de l'androcure. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé autour de l'androcure. On est des hackeuses. Hein, les personnes trans sont des hackers et des hackeuses. On hack des régimes de médicaments qui existent déjà, qui sont faits pour les femmes ménopausées, qui sont faits pour les cancers de la prostate, qui sont faits pour contre le hirsutisme, plein de choses comme ça. On sait pas, on a des études, ça va plus ou moins bien, mais il y a des fois où ça bug complètement, et c'est que c'est un système, quoi. Et l'androcure, par exemple, qui est un truc qui est imposé aux populations trans, parce que ça castre complètement, c'est castre recherche chimique, ça casse complètement la testostérone, et c'est hyper violent au niveau humain, au niveau de même de société et tout. On s'est rendu compte que ça foutait un cancer du cerveau au bout de 5 ans, et c'est des meufs qui sont bien évidemment complètement concernées d'abord, et nous on s'adapte à ça, quoi, et c'est pas du tout pris en compte, c'est pas du tout étudié, vraiment, enfin ça commence à l'être, et on doit jouer avec ça, on joue avec la communauté. Moi, la communauté de mes frères et de mes sœurs trans ont été énormes là-dessus, ils m'ont sauvé la vie, les gens m'ont sauvé la vie littéralement, on se sauve la vie, nous, on peut pas attendre de la société qu'elle nous sauve la vie, parce que on est des expériences aussi, quoi, et on doit aussi peut-être accepter d'être des expériences, et donc du coup, bien sûr qu'il y a la violence, il y a tout ça, mais il y a aussi cette notion-là, quoi, de qu'on est aussi des expériences de réalité, des expériences cognitives, des expériences médicales, des expériences à tous les niveaux. Quoi. On est une expérience. Quoi.
Et alors attention, je vais parler de gynécologue, mais même un ophtalmo, il peut être chiant. Hein, ils y arrivent. Hein.
Très très rapidement, parce qu'il est déjà 3 heures.
Alors, il n'y en a pas de plus en plus, il y en a toujours eu et toujours autant. Ouais. Hein, voilà.
Ouais, des enfants.
Alors, je te réponds sur troubles dans le genre, parce que c'est moi qui ai intitulé la table ronde, oui. Hein, puisque c'est moi qui fait la programmation du festival. On aurait pu l'aborder, on ne l'a pas fait, c'est vrai, mais ça permettait d'ouvrir l'éventail. Et par ailleurs, c'était un hommage à Judith Butler. Voilà, c'est tout. Si tu lis l'intitulé de la table ronde, c'est pas exclu qu'on l'aborde, mais il se trouve que c'est pas arrivé parce qu'on est resté qu'une heure. Voilà.
Il n'y a pas de personne intersexe sur cette table, que je sache.
Non, et voilà.
C'est super important.
Cet
été, si
j'ai hébergé une petite fille chez moi et j'avais pas été prévenue et j'étais assez choquée par son sexe. Et je ne sais pas si, bon, en tant que médecin, scientifique, s'il y en a dans la salle, si c'est des nanoparticules...
Quel âge a-t-elle ?
Elle a 6 ans. Elle avait un pubis, pas de grandes lèvres, pas de petites lèvres, un clitoris, entre le clitoris et le pénis, mais sanglant, et un tout petit trou sous cet appendice. Et moi, je me suis occupée de pas mal d'enfants il y a 25-30 ans. J'ai jamais vu de cas pareil. Et sa maman m'en avait pas parlé. Je sais même pas si... Je me dis, cette petite fille de 6 ans, qu'est-ce qui va lui arriver à 12, 13 ans quand elle va... Est-ce qu'elle va avoir des règles? Est-ce qu'elle a des ovaires, des utérus? Et j'ai l'impression que de plus en plus...
C'est très rapide. C'est très très rapide. Ce qui est extrêmement choquant, en fait, c'est pas l'anatomie de cette personne, c'est qu'on nous ait appris que ça n'existait pas. Et en fait, des personnes transgenres, des personnes intersexes, il y en a depuis que l'humanité existe, et même avant. Enfin, ça fait partie de la spontanéité du vivant. Ce qui est extrêmement choquant, c'est qu'on a cette tendance, ce fascisme, de tout structurer et de dire il y a que comme ça ou que comme ça qu'on peut exister et qu'on a le droit d'exister. Parce qu'aujourd'hui, les personnes intersexuées subissent des mutilations génitales dès la naissance et sans le consentement des personnes concernées, mais même parfois aussi des parents. Donc, ce qui est extrêmement choquant, c'est cette narration. Aujourd'hui, l'ONU a communiqué récemment sur le nombre de personnes intersexuées dans le monde, qui serait à peu près égal au nombre de personnes rousses. On est sur du 0,05%. C'est énorme. Et si aujourd'hui, dans les crèches, les maternités, on n'a pas des personnes qui intègrent les crèches et les maternités et qui sont présentées comme ben, un tel Max, c'est ni une fille ni un garçon, c'est qu'il est bien arrivé quelque chose à ces personnes-là dans les maternités et on les a bien charcutées dans les maternités. Donc aujourd'hui, ce qui est choquant, effectivement, c'est qu'on ait ce témoignage, et c'est pas de votre faute, mais ce témoignage qui dit « c'est pas normal », alors que si, c'est l'humain.
Ah, bon, c'est là, 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 c